Mesdames, Messieurs, fidèles auditeurs de Radio Serré, soyez les bienvenus à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire. Votre émission Santé pour tous marque un arrêt aujourd'hui sur la drépanocytose. En poursuite d'invités pour en parler, nous recevons le docteur Michel Barbarangono, médecin généraliste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Grâce à son expertise, nous allons décrypter cette pathologie chronique qui a de lourdes conséquences sur tous les aspects de la vie des personnes qui en souffrent. La mise en œuvre de cette émission est assurée par Maxino à la technique, David Bayan à la coordination et moi, Steve Phoebe, au micro de présentation. Installez-vous confortablement, Santé pour tous, ça démarre dans une fraction de seconde. Chers auditeurs, une fois de plus, soyez les bienvenus à l'écoute de votre magazine Santé pour tous sur les ondes de Radio Serré, Volcan FM. Quatrième priorité de santé publique pour l'Organisation mondiale de la santé après le cancer, le sida et le paludisme, la drépanocytose est la maladie génétique la plus fréquente. Il y aurait environ 5 millions de personnes atteintes de drépanocytose dans le monde. C'est une maladie chronique pour laquelle il n'existe pas à l'heure actuelle de guérison. La drépanocytose touche essentiellement les personnes originaires de l'Afrique, des Antilles, du Moyen-Orient et de l'Inde. En Afrique, la drépanocytose est la maladie génétique la plus répandue. L'on enregistre dans 40 pays africains au moins des taux de prévalence variant entre 2 et 30%, ce qui explique le niveau élevé de la mortalité et de la morbidité due à la drépanocytose. Les décès causés par les complications de la drépanocytose sont enregistrés essentiellement chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents et les femmes enceintes. Dans bon nombre de ces pays, une proportion de 10 à 40% de la population est porteuse d'un gène drépanocytaire. Étant donné qu'on ne propose pratiquement pas de conseils génétiques aux futurs parents, les unions entre partenaires porteurs du trait drépanocytaire donnent lieu à la naissance d'enfants drépanocytaires. Dans la plupart des pays en Afrique, la prise en charge de la drépanocytose n'est pas adéquate. Les professionnels de la santé suffisamment formés sont rares et les établissements de soins de santé spécialisés sont insuffisants, tandis que les médicaments et les vaccins efficaces, ainsi que les services de transfusion sûrs sont rares, ce qui réduit l'espérance de vie des drépanocytaires. Sur le plan socio-économique, les personnes souffrant de drépanocytose sont souvent victimes de stigmatisation. Et cette maladie a de graves conséquences sur les individus, les familles, les communautés et les nations touchées. Les crises récurrentes de drépanocytose perturbent la vie du patient, en particulier pour ce qui est de son éducation, de ses activités professionnelles et de son développement psychosocial. Quelles sont les causes, les conséquences, les moyens de prévention et de prise en charge de ce lourd fardeau? Nous essayerons d'en savoir davantage avec notre invité. Mais tout d'abord, je vous propose d'écouter cet élément dans lequel certains habitants de la cité capitale partagent avec nous leurs connaissances sur cette maladie.
D'après moi, la drépanocytose est une maladie génétique, causée par l'anémie, on peut dire les hématies. Pour éviter la drépanocytose, il faut faire les électrofloreses, un examen appelé électrofloreses, qui peut déterminer si vous êtes accessible avec un partenaire ou une partenaire d'un électrofloreuse aussi normal que la vôtre pour avoir des enfants normaux. Généralement, les groupes sanguins ne sont pas compatibles, sont les AS, on ne peut pas dire SS parce que les AS sont déjà les personnes malades. Donc, c'est peut-être un homme qui est de type électrofloreuse AS et une femme qui est aussi génétiquement AS, ils ne sont pas compatibles. Pour être compatible, il faut être du type AA et d'un porteur du gène AS. Mais généralement, il y a la norme dans les choses, mais dans le sens de AS et de type masculin et AS de type féminin, généralement, ce sont des groupes où on dit que ce n'est pas vraiment dans la norme. Un homme épouse une femme AS aussi, comme lui. Jamais, sur une chance, ils peuvent avoir un enfant AA. Sur une chance, ils peuvent avoir un enfant AS. Sur une chance, ils peuvent avoir encore un enfant AS. Et sur une autre chance, une quatrième chance, ils peuvent avoir un enfant SS. Et cet enfant AS est porteur de la maladie qu'on appelle la gréponocytose. Bon, généralement, ça se manifeste par d'abord de l'anémie. Il y a certains symptômes physiques et des yeux pâles qui sont jaunâtres. Bon, généralement, on confond la gréponocytose souvent à la fièvre jaune parce que la fièvre jaune se manifeste un peu généralement comme la gréponocytose. C'est-à-dire, comment les signes, comme on peut dire les yeux pâles, les yeux jaunâtres, une perte de poids un peu squelettique et autres. On peut se dire que c'est la même manifestation que la gréponocytose. Or, ce n'est pas ça. Il faut un examen plus spécifique pour déterminer si cette personne souffre de la gréponocytose ou pas. Bon, c'est une maladie chronique, je pense, génétique aussi. Je ne pense pas qu'on peut guérir de cela. On peut calmer, mais on ne peut pas guérir de cela parce que c'est une maladie génétique.
La drépanocytose, c'est une maladie déjà qui, dès l'enfance, se manifeste à travers un déficit sanguin. C'est-à-dire des cellules sanguines qui sont de plus en plus éclatantes, c'est-à-dire que qui s'éclatent et puis bon, la personne connaît des hémorragies et des pertes de sang. La cause est héréditaire. Les facteurs héréditaires qui aboutissent à la drépanocytose sont des facteurs qui se trouvent au niveau des gènes de la personne, c'est-à-dire que deux personnes, les deux parents, c'est-à-dire le mari et l'épouse, n'est-ce pas, apportent chacun un certain nombre de gènes issus des familles différentes. Selon que le parent est issu d'une certaine famille où beaucoup de personnes manifestent cette maladie, si le parent en question, n'est-ce pas, se marie et accouche des enfants, il y a des fortes probabilités qu'on ait un enfant drépanocytaire. Bon, les gènes qui causent la drépanocytose sont des gènes récessifs. Donc quand je dis récessif, c'est des gènes en fait qui ne se manifestent pas directement dès lors que deux personnes se mettent ensemble. Quand les deux gènes en fait récessifs se retrouvent ensemble, n'est-ce pas, on a une manifestation de cette maladie. La drépanocytose, c'est une maladie, bon, sauf si on a déjà trouvé un traitement pour cela. En ce que je pense, c'est que c'est une maladie qu'on ne guérit pas, mais c'est une maladie qu'on peut maîtriser afin qu'elle ne se manifeste pas, qu'elle ne cause pas des dégâts, qu'elle n'affecte pas de façon profonde le malade. C'est-à-dire que la personne peut être porteuse, n'est-ce pas, de ce gène, mais sans toutefois, n'est-ce pas, manifester la maladie énormément. C'est-à-dire qu'on peut juste calmer de temps en temps pour que la personne ne soit pas très malade. La drépanocytose, pour l'éviter, je pense que depuis même déjà la grossesse, n'est-ce pas, il va falloir que la maman, celle qui est porteuse de la grossesse, fasse déjà des visites pour essayer de voir au niveau de son sang, n'est-ce pas, si elle est déjà porteuse, n'est-ce pas, pendant la grossesse, n'est-ce pas, de ce gène malade. Et si c'est le cas, le médecin, n'est-ce pas, peut apporter, n'est-ce pas, un appui afin que la maladie soit évitée. Mais au cas contraire, si la maman n'a pas fait de visite, bon, après, ça sera une surprise de voir un enfant naître avec.
Drépanocytose, dum nyaungum e nyaaw kallungu kanyugo torrata bibbe adama fu e nyaaw mando gudon fudda dabor iga teidei bikoy ha jokka baba en maube fu dada en fu burna fu maro billa rewbe marbe redu rewbe deidei hewtube deidei darobe e mbiata be français under the cycle menstrual be burna fu dum kanjuman billata be e ko mbiata drépanocytose don causa be e ko larani bana par exemple ha iam e be kujeji ledde jimbeji nyamata e dum fudda dum do wada ba nyanyare ha dawde yimbe ha balli e dum do tokkitini banni man e drépanocytose man do manifesta bana ko mbiata ha ko larani science to debbo bana en coachen masalan kankoro to par exemple o bangi be debbo fere donc to bana be bangri be ndairi bikoy hatton mando don ko be biata nasara wetta be français et qui est de croisement donc hatton mando kadi hatton larta to or mari 50% ou 50% donc hatton man be holitinta kujeji nyawman fere be biya c'est héréditaire donc goddo man ronidum iga parangen donc arrière parangen donc kanjuman kozata do man hatton mando si ɓe ndara kadi noy to wodi nyawu caliingu godo do mari ma ngo wara ngo lorto to ha bingel to ha taniraw donc be docteur en tefe mbiya non c'est héréditaire e himbe feedo ndara be balli ha balli donc c'est à dire ha bandu mabbe wurtinan kujeji fere godo fere bo do nyaanyo banni hebata jodo be mbiya tarzagire be ngurtina dum be jaa l'hôpital noy no fulle de man donc be kebata si be ngarta be ledde men balebe e be don nyaunda dum ledde jiban don duudi nda par exemple be don ko chandolla ita sebre lita je don be don kauta be hako dukuje be kauta kadi be dolla be dokka goddo yara be lumba dum jabbe fu be do kauta dum be barkeje heba be lumba goddo to be lumbi goddo ne pe ola o yiwo o yara bo ferru sedda fajira asira o tokki yara dum banni to Allah mo Allah hoynanamo nyauman do fere be evitan fere bo evitata dum nyauno dum hunden Allah waddi banni one be foti be evitaman bana hunden den lortotonde c'est à dire ga to be dany goddo man ma to dum don héréditaire ma ga be dany mo takado tokkimo e nyauman do wala no goddo lurtangu nyauman dum hunde Allah waddi non don ha de goddo habda tan be leddeji man heba hadi to dum.
Drépanocytose est une maladie qui se transmet de mère en fille ou de parents à l'enfant. C'est causé par un gène qu'on appelle, un groupe sanguin qu'on appelle S. Les deux parents peuvent transmettre la drépanocytose à un enfant. Les parents qui ont le gène S, la maladie, comment je peux dire, la cellule S est une cellule maladive. Et cette maladie, c'est ça qu'on appelle la drépanocytose. Ça veut dire qu'il faut être drépanocytaire pour transmettre la drépanocytose. Non, un parent bien important ne peut pas transmettre la drépanocytose. Les parents peuvent transmettre la drépanocytose. Je prends un exemple. Si la mère épouse un, si la mère qui est un groupe sanguin A épouse un homme qui a la drépanocytose, s'agit AS, ils peuvent au fil du temps donner naissance à des enfants qui seront drépanocytaires. Pour éviter cette maladie, il faut procéder à un test prénuptial. Dans ce test prénuptial, on cherche à savoir si l'un des partenaires est malade et peut transmettre la drépanocytose. Si les partenaires sont malades, ça dépend du groupe. S'ils acceptent, s'ils décident de continuer ensemble et de se faire suivre par des médecins, ou s'ils décident de se séparer pour ne pas avoir des enfants drépanocytaires. Non, un drépanocyte ne peut pas régler sa maladie. Il est avec cette maladie à vie.
Fidèle auditeur de Radio Serré, vous êtes toujours à l'écoute de votre émission Santé pour tous, votre magazine de conseils et de sensibilisation sanitaire, dans lequel nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose. Et nous remercions d'ailleurs ces auditeurs qui ont bien voulu partager avec nous leurs connaissances sur cette pathologie. Pour approfondir le sujet, accueillons à présent notre invité, le docteur Michel Barbara Ngono, médecin généraliste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Docteur, bienvenue sur Radio Serré.
Merci.
Alors, docteur, c'est quoi la drépanocytose?
Ok, merci encore de cette occasion que vous m'offrez pour parler de cette maladie qui est présente dans notre société. De manière résumée, la drépanocytose est une maladie génétique qui est due principalement à des modifications au niveau du chromosome 11. Concernant une des chaînes de l'hémoglobine responsable du transport de l'oxygène. Donc, de manière résumée, c'est ça.
Alors, cette maladie, elle est causée par quoi, docteur?
Dans la définition que je vous ai donnée, vous trouvez la cause principale de la drépanocytose. Je précise, c'est une maladie génétique, autosomique et récessive. Autosomique parce que les deux sexes peuvent porter la maladie, l'homme comme la femme, et récessif parce qu'il faut absolument que l'homme et la femme soient porteurs de l'anomalie génétique pour que l'enfant puisse être porteur de la maladie. Donc, je rappelle, il s'agit d'une modification au niveau du gène du chromosome 11. Au niveau de ce chromosome se situe l'allèle qui code pour une des chaînes de l'hémoglobine. Et l'hémoglobine est une substance responsable du transport de l'oxygène, formée essentiellement de quatre chaînes, deux chaînes bêta et deux chaînes alpha. c'est l'anomalie au niveau de la chaîne bêta qui est responsable de l'allèle anormal et donc de la drépanocytose.
Est-ce que justement cette malformation génétique peut être transmise par n'importe qui ?
N'importe qui ne peut pas transmettre la drépanocytose. Uniquement les personnes qui sont porteuses de l'allèle pathologique de la drépanocytose, c'est-à-dire de l'allèle S de l'hémoglobine, de la chaîne bêta de l'hémoglobine. C'est uniquement ces personnes. Et il faudrait que, pour que l'individu soit malade, il faudrait qu'il reçoive l'allèle S venant des deux parents. Ça veut dire que l'un des parents apporte l'allèle S et l'autre des parents apporte l'allèle S. Mais si, de manière unilatérale, il y a un seul parent qui est porteur de l'anomalie et que l'autre parent est un porteur totalement sain, c'est-à-dire dans ses gènes, il n'y a aucune anomalie de l'hémoglobine, alors le couple ne peut pas donner des enfants malades.
Alors docteur, les personnes qui souffrent de drépanocytose, comment est-ce que cette maladie se manifeste? Quels en sont les symptômes?
Ok, la drépanocytose se manifeste soit par des pathologies aiguës, soit alors par des pathologies chroniques. Signalons premièrement que les pathologies aiguës sont prédominées par des syndromes douloureux, notamment le syndrome pied-main qui est très fréquent chez les enfants, dû simplement à l'agglomération des cellules rouges falciformées au niveau des vaisseaux sanguins. Et cette agglomération fait que le patient a vraiment mal. Et voilà, il a des douleurs au niveau des articulations, des mains, des pieds, et ça peut entraîner des tuméfactions aussi. Ça, c'est l'une des manifestations principales. Et il existe d'autres manifestations aiguës, telles que le syndrome thoracique aigu, par exemple, qui est caractérisé par une association de douleurs thoraciques, de fièvre, des difficultés respiratoires. Et troisièmement, nous avons aussi les accidents vasculaires qui sont très fréquents chez les enfants drépanocytaires. Maintenant, à côté de cela, nous avons les manifestations chroniques.
Habituellement, les personnes drépanocytaires ont une apparence très pâle. Qu'est-ce qui pourrait justifier cela?
Effectivement, l'anémie est une des manifestations de la drépanocytose. Premièrement, à cause de la survenue fréquente des crises d'agglomération, des globules rouges mal formés au niveau des vaisseaux sanguins. Et ces globules rouges s'agglomèrent surtout lorsqu'ils sont exposés à des facteurs tels que le stress, tels que le froid. Et lorsqu'ils s'agglomèrent comme ça, les tissus ne sont pas oxygénés, donc ne reçoivent pas l'hémoglobine qu'il faut, ne reçoivent pas les nutriments qu'il faut. Et cette agglomération peut s'effectuer dans des organes lymphoïdes tels que la rate. Et lorsqu'il y a de fortes agglomérations au niveau de la rate, ça peut aussi entraîner des anémies. Bref, le drépanocytaire fait des anémies chroniques, mais aussi des poussées aiguës anémiques.
Quelle est l'évolution de la drépanocytose chez un patient? Ces symptômes que vous décrivez là, est-ce qu'on les perçoit de manière brusque dès les premiers moments de la vie, ou alors il y a une sorte d'évolution dans la maladie?
Ok, merci de la question. Il y a effectivement l'évolution naturelle de la drépanocytose. Lorsqu'un enfant naît drépanocytaire, les premiers jours de la vie ou les premières semaines de la vie, du fait qu'il soit porteur d'une hémoglobine spécifique, que l'on appelle l'hémoglobine fœtale, il est préservé des crises vaso-occlusives. Donc de manière clinique, l'enfant ne développe pas encore des symptômes qui peuvent laisser évoquer cliniquement la drépanocytose. C'est à partir de l'âge, le plus souvent de 3 mois, que surviennent des manifestations pouvant suspecter la présence de drépanocytose. Et puis plus le patient évolue, plus il est exposé même à certains facteurs de risque, plus il développe les signes aigus de drépanocytose.
Comment est-ce qu'on pose le diagnostic de la drépanocytose, si ce n'est pas trop scientifique, bien sûr?
Non, mais c'est très simple. On effectue simplement l'électrophorèse de l'hémoglobine, c'est tout. Et lorsque l'électrophorèse révèle la présence simultanée des deux allèles SS, alors le patient est dit drépanocytaire homozygote.
Justement, généralement, lorsqu'on a posé ce diagnostic, il arrive qu'on demande au patient de faire des examens complémentaires. Quelle est la justification de ces examens complémentaires-là?
Bon, les examens complémentaires dépendent déjà du tableau clinique auquel est associé le diagnostic définitif de la drépanocytose. Selon le tableau clinique que le clinicien a, il peut demander autant d'examens qu'il veut pour pouvoir confirmer les diagnostics aigus et chroniques et donner une prise en charge adaptée.
Est-ce qu'il est possible de confondre la drépanocytose avec d'autres pathologies? Si oui, lesquelles? Et si oui, comment faire exactement la différence entre cette maladie-là et des autres qui pourraient être confondues à elle?
Oui, il est possible, je dirais, il est possible d'émettre les diagnostics différentiels. Je trouve que confondre n'est pas le terme adapté. Mais lorsque l'on pense à une drépanocytose, il faut toujours émettre les diagnostics différentiels parce qu'il existe déjà plusieurs types de drépanocytose. Premièrement, nous avons la drépanocytose homozygote, qui est celle la plus commune, où le patient est dit SS, et nous avons la drépanocytose hétérozygote, y compris les cas de thalassémie. Mais il faut d'autres examens spécifiques pour déterminer est-ce que nous sommes en face d'une thalassémie, est-ce que nous sommes en face d'une drépanocytose homozygote. Là, maintenant, c'est un jargon plus spécifique réservé aux hématologues et aux laborantes.
Est-ce qu'on peut dépister la maladie avant qu'elle ne se déclare chez un patient?
Bien sûr, on peut dépister la maladie avant de retrouver cliniquement des symptômes, notamment au niveau de certains prélèvements effectués chez le fœtus, par exemple. On peut détecter qu'ici, il s'agit d'un enfant drépanocytaire ou pas. Et même avant la naissance, on peut savoir si ce couple peut donner un enfant drépanocytaire simplement en effectuant l'électrophorèse de l'hémoglobine des deux parents, ou du moins donner le pourcentage ou la probabilité de survenue d'un enfant drépanocytaire chez ce couple.
Justement, lorsqu'on pose ces examens prénuptiaux qui permettent justement d'établir si les deux parents n'ont pas de risque de donner naissance à un enfant drépanocytaire, quelle devrait être la conduite à tenir au cas où ils savaient effectivement qu'il y a des risques?
Là, ça revient aux parents. Sauf parents de décider, on ne peut rien faire. Le corps médical n'a que le devoir de présenter des faits scientifiques et c'est au couple de s'engager. Nous précisons encore que ça reste des probabilités qui sont absolues lorsque les deux parents sont drépanocytaires, homozygotes. Ça veut dire que si le père est SS, la mère est SS, de manière naturelle, tous les enfants seront drépanocytaires. Mais maintenant, si par exemple le papa est SS et que la maman est AA, la survenue des enfants drépanocytaires est très faible. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce qu'il faut qu'il y ait l'apport des deux parents pour qu'il y ait drépanocytose. Vous vous souvenez, on a dit c'est une maladie à transmission récessive. C'est-à-dire qu'il faut absolument que chaque parent apporte l'allèle anormal.
Et si les deux parents sont AS?
Justement, si les deux parents sont AS, en ce moment, il y a la probabilité de près de 50% de donner les enfants. Mais nous précisons, ce sont des probabilités. Ça veut dire que les deux parents AS peuvent décider de vivre ensemble et donner uniquement des enfants AA. Ils ont 25% de chance de donner des enfants AA. Ils ont 25% de chances de donner des enfants SS et 50% de chances de donner des enfants AS. Et dans les 25%, tous les enfants peuvent faire partie des 25% de AA, comme des 25% de SS, comme des 50% de AS. Donc ça demeure des probabilités, comme tous les enfants peuvent naître drépanocytaires.
Tout à l'heure, vous disiez qu'il est possible de faire un diagnostic prénatal de la drépanocytose. Est-ce que dans la pratique, ici dans notre contrée, cela est possible?
Non, malheureusement non, nous avons peu d'outils diagnostiques voilà, pour pouvoir poser en prénatal le diagnostic de drépanocytose.
Dans les formations hospitalières où cela est possible, lorsque un diagnostic prénatal est posé chez un enfant qui est drépanocytaire, est-ce qu'il y a déjà une prise en charge qui s'opère dès le ventre?
Déjà, il y a une prise en charge déjà psychologique parce que les parents sont déjà informés que l'enfant est un enfant drépanocytaire et ils sont mieux préparés psychologiquement à accompagner cet enfant dans sa maladie. Et maintenant, lorsque l'enfant naît, il y a des moyens précoces qu'on peut proposer à la famille pour pouvoir réduire, par exemple, soit la survenue des événements aigus ou des événements chroniques, selon le plateau technique disponible et selon les moyens de la famille.
Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une petite pause dans cet entretien avec notre invité. Je vous propose d'écouter ce petit témoignage d'une patiente qui souffre de drépanocytose et qui a bien voulu accepter de nous partager son expérience, des difficultés liées à sa maladie et du poids que cette maladie représente sur son quotidien, sur ses relations et sur ses études. Nous l'écoutons.
Je m'appelle Bissolami Lafortune. J'ai 18 ans. Mais j'aurai 19 bientôt quand même. Je suis étudiante en droit à UMA, l'université de Maroua, en première année. Je suis drépanocytaire SS.
À partir de quel moment est-ce que tu prends conscience que tu es malade?
À 6 mois exactement, que après une longue période de maladie, que mes parents m'amènent à l'hôpital et se rendent compte que je suis drépanocytaire. Bon. On ne se rend jamais trop compte qu'on est malade, puisqu'on grandit, on vit avec. À l'âge de conscience qui est peut-être 3 ans, c'est là que tu commences à te rendre vraiment compte que tu es malade. Mais puisque tu vis avec depuis et que tu sais ce que tu as depuis, bon, là, ça ne te fait pas trop un choc dans ta vie.
Concrètement, comment se manifeste ta maladie?
Bon, comme chez tous les drépanocytaires, la drépanocytose se manifeste par des douleurs aiguës partout, sur tout le corps en fait. Donc toutes les articulations font extrêmement mal quand il manque d'oxygène. Bon, genre le sang est à coaguler. Donc comme les globules rouges ne sont pas bien formés, comme chez tous les autres êtres vivants, donc c'est cette malformation des globules qui entraîne donc la douleur entre les articulations et une douleur qui est vraiment très aiguë. Bon, sur une échelle de 1 à 10, on peut dire que la douleur est extrême et c'est à 9 par exemple.
Ces douleurs-là, elles sont régulières, elles sont périodiques, elles sont occasionnelles?
Bon, ça dépend. Hein. Pour moi, déjà, les crises sont périodiques. Parce que quand il fait, par exemple, extrêmement froid, le corps ne supporte pas. Ou quand il fait extrêmement chaud. Donc, c'est pas tout le temps, tout le temps. Ça dépend, ça varie. Pour moi, ça dépend du climat. Donc, quand le climat est favorable, parfois, je peux faire des mois sans tomber malade. Et quand le climat n'est pas favorable aussi, je peux passer peut-être 2 mois de maladie, mais ça passe.
Est-ce que tu es souvent hospitalisée quand tu fais des crises?
Oh, oui. J'ai été beaucoup hospitalisée. Donc, genre, je passais les 6 mois à l'hôpital, les 3 mois de maladie, les membres handicapés, autres et autres. Donc, ça dure. Parfois, c'est dur.
Tu prends quel médicament? Comment est-ce que tu es prise en charge?
Quand je suis malade, je vais à l'hôpital régional de Maroua. Là-bas, il y a des médecins généralistes qui sont déjà un peu au courant de ma maladie parce que j'y vais depuis que je suis toute petite. C'est vrai qu'il n'y a pas d'hématologue dans la ville de Maroua. Donc, c'est un peu compliqué pour nous, les drépanocytaires, surtout si on rencontre des médecins qui ne sont pas au courant de la maladie, qui ne savent pas c'est quoi la drépanocytose et autres. Mais généralement, quand tu vas déjà plusieurs fois dans un hôpital, ton dossier est déjà, ton cas est déjà suivi. Donc, quand tu arrives, bon, il n'y a plus vraiment grand-chose à dire, juste que tu es venu et tu fais à nouveau une nouvelle crise.
Les médicaments que tu prends, ce sont lesquels? Ça se prend à quelle périodicité? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est pas à un moment?
Il y a le comprimé jaune, ce qu'on appelle la Folgine, que je prends tous les jours. Et il y a ce qu'on appelle aussi le Trabar ou les antidouleurs comme les Feralgan, le paracétamol. Donc les trucs comme ça qu'on prend chaque fois qu'on sent une crise arriver.
Et si tu ne prends pas ton médicament, qu'est-ce qui se passe?
Bon, Déjà, si tu prends le premier médicament de la drépanocytose, c'est l'eau déjà, boire beaucoup d'eau. Donc déjà, si je ne prends pas mon médicament quotidien qui est l'eau et les autres médicaments qui s'appuient à ça, comme la folgine, déjà, je ne serai pas hydratée. Et mes globules rouges n'auront pas de belle forme. Et c'est ce qui va entraîner les crises.
Est-ce que ta maladie a eu un impact ou a un impact sur tes études?
Oui, beaucoup. La maladie a un impact sur la scolarisation parce que à un moment où tu te vois, par exemple, dans une classe d'examen et que tu te retrouves à faire une crise de 3 mois, ce n'est pas vraiment évident. Donc, venir vraiment et rattraper ce temps perdu-là, c'est très, 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 très difficile.
Est-ce qu'il t'est arrivé de redoubler des classes durant ton parcours?
Non, grâce à Dieu, parce que, comment on dit, les trépanocytaires, déjà, ils sont intelligents et mentalement forts. Donc, ce qui veut dire que quand nous sommes malades, alités, nous avons nos cahiers à côté de nous. Le jour que tu vas bien, tu lis. Le jour que tu ne vas pas bien, tu t'arrêtes, tu ne lis pas. Donc, vraiment, à cause de la drépanocytose, je n'ai jamais eu à redoubler une classe.
Et pour ta famille, tes frères et sœurs, tes parents, quel est l'impact de ta maladie sur eux?
Bon, déjà, la maladie a un impact sur ta famille parce que déjà pour des parents qui ne savent pas c'est quoi la drépanocytose, se retrouver avec un enfant drépanocytaire, c'est un peu comme un coup, c'est un peu comme une bombe atomique. Donc ça a vraiment un impact parce que ta famille, ils sont obligés de vivre à ton rythme. Ils ne peuvent plus vivre comme les autres. Par exemple, ma petite soeur, beaucoup de gens se demandent souvent si c'est elle la dernière ou si c'est moi. Parce qu'elle-même, elle se sent parfois obligée d'être aux petits soins avec moi et tout et tout. Donc vraiment, la maladie a un impact sur la famille, sur les amis, même dans ta vie privée, dans ton école, partout en fait.
S'agissant de ta vie sentimentale, est-ce que la maladie a un impact? Est-ce que tu as des petites amies comme tous les jeunes de ton âge?
Oui, j'ai un petit ami comme tous les jeunes de mon âge, mais genre, tu es obligé de lui dire quelle est ta situation actuelle. Et un drépanocytaire ne peut pas avoir un petit ami comme les autres parce que tu es obligé de voir, il est AA, vous n'allez pas faire d'enfant malade, est-ce qu'il est compatible, est-ce qu'il n'est pas compatible et autres.
Est-ce que ton petit ami comprend ta situation? Est-ce qu'il accepte et comment est-ce qu'il la vit lui?
Il comprend, il accepte. C'est vrai qu'il n'a pas envie de le dire à sa famille ou à ses amis. Parce que généralement, le regard des autres influence un peu nos choix. Donc, on le garde pour nous, nous deux, on le sait. Et on le garde.
Est-ce qu'il t'arrive parfois de te dire, au regard justement des douleurs atroces que tu subis, que tes parents peut-être auraient dû mieux faire de ne pas te mettre au monde?
Oui, plusieurs fois. Ça, c'est sûr. Plusieurs fois, j'ai même demandé à mourir. Plusieurs fois, tu te dis, mais ça, c'est quelle vie? Comment toi, tu vis ce moment dans la douleur? Pourquoi tu ne peux pas sourire autre? Tu demandes même à Dieu de te libérer. Mais bon, ce qui est là, tu es obligé de l'accepter comme ça.
Est-ce que tu les en veux?
Non. Personnellement, non. Parce que quand on grandit, on se rend compte que ce n'est pas de leur faute. Ça arrive à tout le monde. Et nous sommes des millions et des millions de drépanocytaires dans le monde.
Pour finir, quelles sont tes ambitions, quels sont tes rêves, malgré ton état, malgré ta maladie?
Bon, déjà, plusieurs rêves. Malgré la maladie n'empêche rien. La maladie, c'est psychologique. Donc, moi, mon ambition déjà, finir mes études, espérer trouver un bon travail. Et puis, si un jour, peut-être, créer une association où on ira dans des petits villages sensibilisés sur la drépanocytose.
Est-ce que tu as des rêves de fonder une famille? Et si oui, est-ce que tu n'as pas peur que ta maladie soit un handicap?
Non. Tout le monde envisage fonder une famille. Pourquoi? La maladie n'est pas un handicap. Et surtout que je connais des drépanocytaires qui ont 6 enfants, 8 enfants. Donc la maladie n'empêche rien. Ça n'empêche vraiment rien.
Fidèle auditeur, de retour à l'antenne de Radio Céré, toujours en compagnie du docteur Michel Barbarangono, avec qui nous parlons aujourd'hui de la drépanocytose. Alors docteur, tout à l'heure, vous parliez des préparations psychologiques que vous offrez aux familles des patients. Et à partir du témoignage que nous venons d'écouter, on comprend très bien que cette maladie n'est pas du tout facile à vivre. Quel est l'impact de la drépanocytose pour les proches d'un patient.
Quel est l'impact de la drépanocytose sur la famille? Effectivement, il y a un impact. Il y a un impact déjà psychologique pour les parents directs, dont le père et la mère, et même pour les frères et sœurs aussi. Déjà affectif, ça fait déjà très mal de voir son enfant souffrir de manière régulière. Ce sentiment de souffrance, cela affecte directement les parents, mais aussi psychologique et social. Psychologique en ce sens où, pour apporter du soutien à quelqu'un qui est constamment en train de souffrir, en train d'être hospitalisé, il faudrait être soi-même psychologiquement fort. Et il y a aussi un impact économique. Il y a un impact économique et social. Économique parce que de manière évidente, il y aura l'économie de la famille qui sera affectée. Le budget de la famille sera drastiquement affecté par la survenue des crises aiguës chroniques du patient. Donc tout ça fait que de manière naturelle, la drépanocytose va changer la dynamique familiale.
Justement, est-ce qu'il existe un traitement, je vais qualifier de définitif, pour la drépanocytose? Et quelles sont les modalités de prise en charge de cette maladie? Vous parlez tout à l'heure de l'impact économique, il y avait des crises qui sont répétitives. Comment est-ce qu'on prend en charge un patient souffrant de drépanocytose?
Tout dépend déjà de l'entité clinique, de l'expression clinique que nous avons en face. En fonction de l'expression clinique, la prise en charge est différente. Je voudrais simplement spécifier qu'il y a la prise en charge symptomatique et la prise en charge, je dirais, plus ou moins définitive. Je m'explique. Symptomatique, ici, on prend en charge les pathologies consécutives à la drépanocytose, que ce soit des pathologies aiguës que j'ai citées, notamment l'anémie, les crises vaso-occlusives, le syndrome thoracique aigu ou même les accidents vasculaires cérébraux, ou alors que ce soit les pathologies chroniques que nous pouvons avoir, notamment les plaies chroniques, le retard de croissance même staturale et pondérale de cet enfant. Tout dépend de l'entité et en fonction de l'entité dont il y a une prise en charge adaptée. Maintenant, vous voulez connaître de manière profonde, est-ce qu'il y a des options pour pouvoir améliorer significativement et à long terme la qualité de vie du patient drépanocyté? Oui, il y en a. C'est vrai, ce sont des outils que nous n'avons pas toujours dans nos centres hospitaliers, mais il en existe, je vais les citer. On peut avoir premièrement le remplacement du sang du patient. Ça veut dire qu'on extrait une quantité du sang du patient et on le remplace par un sang sain. Encore, nous précisons que ça s'effectue dans des centres hospitaliers où le plateau technique est assez adéquat. Deuxièmement, nous avons l'hydroxyurée, qui est une molécule utilisée chez des patients souffrant des pathologies sanguines et qui permet de booster la production de l'hémoglobine fœtale et dont la présence va venir réduire ici les crises aiguës, réduire les anémies, dont forcément les transfusions sanguines, réduire les crises douloureuses et par conséquent améliorer la qualité de vie du patient. Et enfin, nous avons ce que l'on appelle la greffe de moelle osseuse, qui jusqu'ici reste le seul élément thérapeutique durable pour les patients drépanocytaires. Mais nous précisons que les indications sont vraiment très spécifiques et restreintes. Pourquoi? Parce que c'est indiqué chez les patients dont les expressions de la maladie sont très sévères et je veux dire, les effets secondaires ou alors les complications de cette solution sont souvent très fatales pour le patient, d'où la nécessité de le faire dans des centres hospitaliers vraiment avec un plateau technique élevé.
Dans toutes les solutions que vous proposez ou alors que vous préconisez, on se rend très bien compte que tout dépend de la capacité ou alors du plateau technique de la formation sanitaire. S'agissant spécifiquement de notre région, bien plus particulièrement de votre formation sanitaire, comment est-ce que vous prenez en charge les patients souffrant de drépanocytose?
Nous sommes au niveau symptomatique. Voilà, nous sommes au niveau symptomatique. Ça veut dire que le plus souvent, tout ce que nous faisons, c'est l'accompagnement psychologique de l'enfant, de la famille, mais aussi nous gérons les crises aiguës. Si l'enfant a une anémie, soit nous donnons des conseils pour éviter que l'enfant n'entre dans une décompensation, ou si c'est nécessaire, nous transfusons l'enfant. Si l'enfant développe un syndrome pied-main, nous donnons des antalgiques et évidemment des conseils pour éviter la survenue des crises. Donc mettre l'enfant à chaud, éviter le stress, voilà, le calme, tous ces éléments-là aident à réduire la survenue des crises. Et si l'enfant a une infection, nous traitons l'infection. Ou alors s'il existe une pathologie chronique que nous devons prendre en charge, nous la prenons en charge.
Docteur, je souligne que depuis que vous parlez de patients drépanocytaires, vous vous renvoyez toujours cela à l'enfant, l'enfant, l'enfant. C'est qui pourrait renforcer dans l'imagerie populaire l'idée selon laquelle, lorsqu'on est drépanocytaire, on ne vit pas assez longtemps. Est-ce que cela est vrai, docteur?
Non, cela n'est pas vrai. On vit longtemps. C'est vrai, il faut le dire, lorsque l'expression clinique est sévère et qu'il n'existe pas toujours des centres pouvant aider, tout au moins apprendre ces événements aigus, l'espérance de vie du drépanocytaire sera réduite. Mais pour ces drépanocytaires qui sont pris en charge à long terme par un personnel soignant et médical, ils vivent normalement, ils fréquentent normalement, ils peuvent s'épanouir normalement dans la société.
Ce qui m'amène justement à vous poser cette autre question. Pour une personne souffrant de trépanocytose, est-ce qu'il peut s'autant épanouir que vous et moi? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de poids, de conséquence du traitement et de la maladie sur sa vie quotidienne et même sur ses relations familiales, sociales?
Naturellement que oui. Naturellement, surtout dans notre société où la notion de maladie est vraiment très, je vais dire, elle est empreinte de beaucoup d'images, de spiritisme, d'occultisme, et voilà, ce qui fait que l'enfant drépanocytaire souffre vraiment, surtout lorsqu'il n'a pas des parents qui comprennent que c'est une maladie, qu'il peut arriver à tout le monde. Lorsqu'il n'a pas des parents pardon, ou un entourage qui le soutient psychologiquement, si lui-même il n'est pas fort, il risque vraiment de baisser les bras. En dehors de cet impact psychologique, il y a des effets économiques et sociaux. Le patient drépanocytaire, lorsque les crises ne sont pas prévenues et bien gérées, il est évident que s'il est élève ou étudiant, il va constamment rater les classes. S'il est employé dans une entreprise, il sera constamment en train de demander un congé maladie ou un repos maladie. Vous voyez un peu. Et même d'un point de vue familial, s'il est marié et que le conjoint ne comprend pas, ne supporte pas, ne le soutient pas, ça aura un impact dans la vie de couple, dans la vie de famille. Donc, voilà.
Alors, est-ce que la drépanocytose et la grossesse sont compatibles? Je veux dire, est-ce qu'une patiente drépanocytaire peut normalement donner la vie?
Si, la drépanocytose n'est pas une contre-indication à l'enfantement, non. Les patientes drépanocytaires peuvent enfanter, mais elles doivent se faire suivre. Ouais. Elles doivent se faire suivre idéalement par un gynécologue travaillant de manière collégiale avec un hématologue.
Quelle hygiène de vie pour un patient souffrant de drépanocytose? Qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire? Qu'est-ce qui est recommandé? Qu'est-ce qui est déconseillé? En ce qui concerne l'hygiène de vie pour un patient qui souffre de drépanocytose.
Bien, merci. La question est très intéressante. Il y a effectivement une hygiène de vie. Premièrement, le patient drépanocytaire doit être propre. Il doit apprendre à se laver les mains avant de manger, après avoir mangé. Il doit avoir une très bonne hygiène corporelle. Il doit consommer de l'eau potable. Et d'un point de vue nutritionnel, le patient drépanocytaire doit très bien s'alimenter avec des aliments assez riches en fer pour pouvoir favoriser la formation fréquente du sang. Et à côté de cela, le patient drépanocytaire peut prévenir les crises vaso-occlusives en évitant d'être constamment exposé au froid. Vous comprenez, n'est-ce pas? Il doit éviter, ou alors lorsqu'il se retrouve dans un milieu où humide, il doit rapidement se protéger. Pourquoi ? Parce que le milieu humide favorise la falciformation de l'hémoglobine.
Alors, docteur, on revient un peu sur la probabilité pour des parents, justement, qui ont des risques de transmettre cette maladie à leur progéniture. Est-ce qu'il est possible, malgré tout, d'éviter de transmettre ces maladies-là à un enfant lorsqu'on est un parent AS et qu'on a une épouse AS également? Est-ce qu'il est possible, par exemple, de prendre un traitement, de prendre des précautions pour parvenir à éviter de transmettre cette maladie à l'enfant?
Peut-être il en existe pour l'instant. Je ne suis pas informée de telles thérapies pouvant prévenir ou pouvant annuler la probabilité de survenue. Peut-être il en existe pour l'instant. Je ne suis pas informée de... Voilà.
Donc, en résumé, il est impossible de prévenir la maladie chez ces personnes-là.
Se remettre à Dieu et par la foi, peut-être deux personnes AS peuvent décider de s'unir en espérant que tous leurs enfants seront AA, donc vont faire partie des 25%.
Alors, docteur Michel Babarangonor, merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Santé pour tous.
Merci, le plaisir était pour moi de le faire.
Merci au docteur Michel Babarangono pour toutes ces clarifications. Chers auditeurs, je vous propose à présent d'écouter un petit résumé en langue fofoldé du contenu de cet entretien avec le docteur Ngono. C'est avec le concours de Badriatou Bello Boba.
Worbe rewbe heditittobe radio hosere on don kedito siriyawa modon bietenga jamu modon dum emission nasianago en den bo waza godon jamu mon ha radio hosere en don bolwana hande nyaw bietenga drepanocytose nyaw kebetenga dagam saroji meden ha jokko en docteur Michel Barbarangono docteur de généraliste ha bariki wa miskin don wolwana en do nyawga e saatugo batte maga do yimbe marbe nyawman da dedei ko mando toden ha bolide mako trepanocytose dum nyaw chaklunga ngaran ga dagam saroji meden maran ga batte chatude har ngendam bi adama mardo nyawman nyawnga do wara daga bingel ha saro en mudum to i am mabbe don mari nyawman bana to wodi ko sanji ha ko be biyata be demgal nasara chromosome 11 e toni en gidi ha dento den nyawman sey njahen bari kingam gaden examen ji hidde bangal walla bo hidde ko danyin ko to dum sekwe non bo examen kam dikka wade dono yimbe boliranta marbe nyawnga marbe drepanocytose don ngura ngendam bana meden e njunga bo sey nyawdo man hocha lekki mudum ki traitement mako e o mara ngendam bo je odon aini ngam man dum wiigo mo o lota juude mako boddum der wakkatiji hidde ko o nyama e to o nyami o yara ndiyam boddam cenidam labdam den bo sey goddo latto labdo ha bandu mun goddo drepanocytaire man mara nyamde bodde bana nyamduji maran di fer heba i amma ko yahade deino yarete daito den babbe pewde ngam kisen batte dudde hediti tobe tilimbe to wodi ko ngiddon besdan gomit ko ma wodi yamol mon do ko larani bolide amin hande do on poti on gerba message walla bo gerbon bolide hala bi telephone jego jenai joy gotel nai Jego tati, Jego didi. Jego, jenai joy, gotel nai, Jego tati, Jego didi. Engamman, tanget jiten, faddago, uran nyawndago.
Amis auditeurs, c'est la fin de cette autre édition de Santé pour tous qui a fait un focus aujourd'hui sur la drépanocytose grâce à l'expertise du docteur Michel Barbarangono, médecin généraliste en service à l'hôpital Baptiste de Mesquine. Que retenir donc de cette émission qui s'achève, sinon que la drépanocytose est une maladie génétique chronique dont les symptômes ont de lourdes conséquences sur la vie sociale, familiale et professionnelle des personnes qui en souffrent. Contrairement aux idées reçues, les drépanocytaires peuvent mener une vie assez normale et prolongée. Il faudrait pour cela se faire prendre en charge et avoir une hygiène de vie soignée. Pour éviter cette maladie, il est recommandé aux futurs parents ou aux futurs époux d'effectuer des examens prénuptiaux pour vérifier leur compatibilité avant de s'engager dans une voie qui pourrait très vite devenir un chemin de croix, tant pour eux que pour l'enfant malade, même si cela n'est qu'une probabilité. Fidèle auditeur, nous vous rappelons que vous avez désormais la possibilité d'interagir avec nous. Si vous souhaitez apporter une contribution, poser une question ou même réagir sur le thème de ce jour, vous pouvez le faire par WhatsApp en envoyant soit un message, soit un voice au 695 14 63 62, 695 14 63 62. La mise en onde de cette émission a été possible grâce au concours de Maxino à la technique, Badia Toubelo-Boba à la traduction, David Bayan à la coordination et moi, Steve Febi, au micro de présentation. Donnons-nous rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Santé pour tous. D'ici là, gardez à l'esprit que prévenir vaut mieux que guérir. À très bientôt.